La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Salut Pierre.
Salut Patrick.
OK, la Banque du Canada qui a pris une décision sur le taux directeur.
Oui, je t'ai parlé d'Arthur Sirbé qui était un gardien de but avec un casque spécial et des pattes vraiment larges dans les années 90.
Oui, il y avait OK, quand tu as dit Arthur Sirbé là, j'ai pensé à ses il y avait pas un masque, il y avait un casque me semble-t-il avec une grille très très droite.
Tout à fait. Et lui dans le fond, il était hyper padé tellement que la Ligue nationale a dit un moment donné, il va falloir qu'on intervienne pour réglementer ça. Et donc, je fais un parallèle avec le gouverneur de la Banque du Canada qui dit, écoute, on va attendre d'être padé comme Arthur Sirbé avant de baisser les taux. En somme, on nous dit, on va être bien sûr de pas faire une deuxième erreur et donc, on va pas baisser avant qu'on soit sûr. Le problème, c'est que la Banque du Canada est en amont de l'économie. Si t'attends que ce soit parfait avant de baisser les taux, tu t'exposes au fait d'aller trop fort trop longtemps et que l'économie plante pendant ce temps-là. C'est le gros enjeu présentement parce que c'est sûr qu'on parle de Donald Trump et de la guerre en Ukraine jour après jour, jour après jour. Mais il y a une chose qui parle au monde, c'est le taux directeur de dire tous les jours, là, ça affecte leur paiement de vie. Ça affecte leur capacité de payer le reste. Et on peut pas couper dans l'hypothèque, Patrick. Je peux pas aller voir mon banquier et dire, hey, m'a te négocié ça. Ce mois-ci, je te dois 3 200, m'a te payé 2 750. Il va dire, non, c'est ça que tu payes. Donc, faut que tu coupes ailleurs. Et quand tu vas voir ce que le ministre des Finances avait fait durant son budget, on voit que le gouvernement du Québec, non seulement anticipe une baisse cette année, mais veut une baisse pour que ces hypothèses s'en viennent dans le bon sens. Et donc, à la mi-année, on s'attend à une baisse parce qu'on veut un taux moyen de l'année de 4,6 au Québec, pendant qu'il est à 5 présentement, va falloir que ça se produise. Et les prochaines dates, c'est 5 juin, 24 juillet. Et donc, Patrick, bonne chance que là, la boule de cristal dise « Parfait, on va laisser passer le budget du gouvernement fédéral, parce que ça aussi, c'est un enjeu. On attend le budget parce qu'on se dit « Hey, si M. Trudeau dépense encore plus qu'avant, il nous nuit en tant que Banque du Canada qui tente de calmer l'économie. Si tu imprimes encore du cash, que tu garages de l'argent, c'est un problème. » Et il faut tout le temps regarder ça, Patrick, dans un beau contexte macroéconomique. Présentement, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les données de nombre de personnes par ménage. Puis, pourquoi c'est important? Il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, tu avais une moyenne de 4 à 5 personnes par logement. Aujourd'hui, tu as une moyenne proche de 2. Et là, Patrick, jasons-en un peu. Si tu es proche de 2 par logement, puis qu'en plus, les gens se séparent plus souvent qu'avant, imagine-toi que même si la population a doublé depuis 1950 et plus, et qu'il y a 2 fois moins de personnes par logement en moyenne, en plus, il y a des gens qui sont moins stables. Donc, tout ça affecte la capacité des gens à se loger.
Es-tu en train de dire que les gens devraient se mettre quelques familles pour occuper le même logement?
Ben, disons que dans la période actuelle, avant de semer la zizanie dans une équipe familiale et de s'éjecter soi-même, il faudrait se dire, hey, est-ce qu'on pourrait regarder ça? Et ta collègue ce matin, d'ailleurs, Marie-Ève Fournier, a souligné l'espèce de ratio revenu par rapport au coût de propriété, mais surtout l'apport du revenu qui est lié au paiement de la propriété. Et c'est très élevé, c'est plus élevé que ce qui est soutenable normalement. Évidemment, dans ces analyses-là, je sais jamais si on me parle de revenu brut, revenu net, revenu après déduction, mais au moins, il y a une tendance à la hausse qui nous dit « ça va de plus en plus mal au Canada ». Et le signal, c'est de te dire « A, restez donc dans les maisons que vous êtes si vous pouvez ». B, pour acheter une maison peut-être dans le marché actuel, faut peut-être déjà avoir une habitation. C, chers parents, je vous parle présentement en tant qu'enfant qui a vieilli un peu. Je vous dirais, pensez à vos enfants présentement et oubliez ce que vous avez vécu. Maintenant, ça prend une stratégie familiale multigénérationnelle à mettre en place. Et donc, si tu as un REE ou tu as un CELI ou tu as de l'hypothèque sur ta maison, tu as de la place, peut-être assumer un coût de l'hypothèque de son enfant, peut-être hypothéquer sa maison pour payer une partie de celle de son enfant, peut-être donner un héritage en avance, peut-être. Faut arrêter de voir le « me, myself and I » dans ce cas-ci.
Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
je te dirais que c'est déjà commencé. Il y a 2 ans, j'avais travaillé sur un dossier, puis Pierre-Yves. Et le nombre de parents, depuis quelques années, là, qui aidaient leurs enfants à la mise de fonds pour une première propriété avait explosé. Ça, c'était les statistiques jusqu'à il y a 2 ans. Depuis, j'imagine que ça a continué à augmenter.
Oui, puis la vie, si tu regardes les dépenses des familles, je t'allais voir les dépenses des ménages, OK? Et on regarde que de 2017 à 2022, à Montréal, par exemple, l'alimentation a augmenté beaucoup, évidemment, le logement aussi, le transport aussi et les impôts, évidemment. Mais ce qu'on regarde froidement en dollars, c'est de voir que les gens mettent plus d'argent dans le logement que dans l'alimentation et mettent plus d'argent dans le transport que dans l'alimentation maintenant. Et donc, il y a une question peut-être qui est existentielle ici. Ça veut dire qu'au Canada, on est rendu en 2023 un coût moyen d'un véhicule à plus de 50 000 $.
Et oui.
Donc, non, mais on regarde ça froidement. Ça veut dire que il y a peut-être présentement un retour à des habitudes qu'on avait il y a quelques générations, c'est-à-dire de prioriser logement, bouffe et investissement. Logement, bouffe, épargne. C'est comme les 3 affaires que tu peux, t'as pas le choix. Les autres postes vont passer au tordeur d'ailleurs. Tu sais, tu peux pas renégocier avec ton courtier, ton père hypothécaire. Tu peux pas renégocier ton véhicule. Non. Tu peux pas renégocier ton loyer ou ton contrat d'assurance pendant qu'il existe. Mais chaque jour, tu peux renégocier ta peine de lait. Tu peux renégocier ta poche de riz. Et donc,
attends, comment tu négocies la
peine
de lait?
Dans le sens que, Patrick, tu peux pas faire des choix sur ton prix de loyer.
Ah, OK, tu peux dire, je vais prendre moins de lait ou je vais prendre autre chose.
Non, quand on c'est peut-être pour ça qu'on obsède sur la bouffe. C'est parce qu'on s'en va vers là. Et là, il y a une solution. C'est d'augmenter l'offre. On peut dire n'importe quoi. On peut être au gouvernement de faire des programmes, des CELIAP. On peut dire qu'il faut aider au logement. On peut dire 1 000 affaires. Il manque de logement. Donc, on se fait-tu des usines à condos?
Tellement d'accord avec toi. Là.
Est-ce qu'on densifie des places? Ben. Est-ce que la mairesse de Montréal va dire, OK, les shoebox, là, on aimait ça, on était patrimonial, mais là, finalement, notre idéalisme va monter de 4 étages.
Oui, t'as raison.
Il y a des choix Pierre-Yves, de société à faire.
Pierre-Yves, il y avait un texte dans la presse hier sur des immeubles là, qui appartiennent à la ville, qui ne demandent qu'à être développés, puis ça marche pas. Pourquoi? Pas tant la faute de la ville que c'est pas le bon programme. Les programmes fédéraux, provinciaux ne s'arriment pas. Ça, c'est une chose. L'autre affaire, je reviens à ça, mettre plus de logements sur le marché. Pierre-Yves, tu connais ça mieux que moi, mais je m'arrache les cheveux quand je les vois aider le monde à acheter des maisons. Arrêtez de mettre de l'argent dans le marché, c'est pas ça le problème.
Non, puis mettez des conditions gagnantes. Je te donne un exemple. Promène-toi sur Saint-Laurent, sur Papineau, sur certaines rues à Montréal. C'est désaffecté bord en bord. T'sais, si on veut aller faire un mouvement national, c'est de la captation, augmenter d'un étage certains secteurs, faut peut-être accepter des tours à des places qu'on n'acceptait pas. Je te donne un exemple. Je sais pas si tu connais le métro Frontenac. Au métro Frontenac, on a bâti, il y a plusieurs décennies, 2 immenses tours qui jurent totalement avec le petit territoire. Mais ça a permis quelque chose. Ça a permis aux alentours de peut-être monter certaines tours en disant, ben, c'est proportionnel à ces tours-là dans ce coin-là. Et on a densifié fortement le secteur. On a revitalisé des secteurs complètement dévitalisés. Et on est en train de rebâtir une capacité de logement à cet endroit-là. On va peut-être faire prendre cet exemple-là puis l'extrapoler. C'est sûr que notre idéalisme de boiserie dans Villeray, dans une petite shoebox sympathique, faisant jouir de plaisir notre ami Jean-François Nadeau, je le comprends qu'il aime ça, mais mon côté idéal, pratique et qui pense plus aux familles qui doivent se loger se dit, il y a du patrimoine à sauver et il y a du patrimoine à peut-être faire évoluer. Puis un étage à Montréal en 2024 dans un quartier dense, c'est un anachronisme moderne. Alors moi, je suis de ceux qui pensent que on doit densifier certains secteurs et ça commence par ceux qui sont facilement identifiables.
Bien dit, merci Pierre-Yves. On se retrouve demain.
C'est 23.